Merci beaucoup, Madame la Ministre. Je suis ravi que vous soyez bien sûr ici avec nous en ce moment, Monsieur l'Administrateur. C'est vrai que tout ceci colle dans un système général du rôle du Collège de France aussi, dans cette diversité que vous évoquiez, cette transversalité. Et c'est vrai que je vais souvent voir des scolaires et je me rends compte qu'une partie du système scolaire classique nous pose problème aujourd'hui parce qu'on compartimente beaucoup les relations entre le professeur de physique, de mathématiques, d'histoire, de géographie, de lettres. Quand je dis à des jeunes étudiants qui adorent les mathématiques, apprenez l'anglais, sinon vous ne communiquerez pas avec vos amis qui sont chinois ou argentins. Et c'est vrai qu'on a un vrai travail auprès des jeunes d'éducation pour leur montrer que les grandes questions qui nous préoccupent aujourd'hui, dont nous, scientifiques, devons transposer ces questions en faits scientifiques pour qu'on puisse les travailler, sont très transversales. Aujourd'hui, alors il faut des spécialistes, et bien sûr je leur dis, formez-vous bien dans une discipline particulière, soyez très bons dans votre domaine, mais apprenez un langage commun, tentez de rencontrer l'autre pour échanger et pour discuter. Ce n'est pas toujours très simple, moi je me rappelle au CNRS, les discussions épiques entre sciences de la vie et sciences de l'univers, ça se passait assez bien. Et dès que les sciences humaines et sociales arrivaient, on avait des soucis pas possibles pour pouvoir communiquer. Moi qui suis un physiologiste, par exemple, de l'adaptation, le mot adaptation a des sens très différents pour certains types de cerveau dans les sciences humaines et sociales. Donc il faut qu'on d'abord on se mette d'accord sur le sens du mot et après on peut échanger et discuter. Alors ouvrir un tel colloque, d'abord je suis extrêmement heureux, extrêmement fier, ému aussi de vous accueillir ici ce matin au Collège de France. Ça clôt aussi moi un enseignement de cette année pour lequel on m'a appelé. Et vous savez que j'avais appelé cet enseignement cette année au sein du cadre général de la chaire qui est donné à l'avance, croisement entre humanité et biodiversité. J'étais l'autre jour à l'IGEN, l'Inspection Générale d'Éducation Nationale, face à tous les inspecteurs généraux, et pour parler de biodiversité. Cette semaine, il s'est passé plein d'événements. Ça, c'était mardi, la semaine dernière. Et jeudi, j'étais convoqué au Comité Consultatif National d'Éthique. On aura Jean-Claude Amezen ici demain après-midi, pour essayer de convaincre le Comité d'Éthique. Et vous l'avez rappelé, Madame la Ministre, que ces questions aussi de perte de diversité sont aussi des questions éthiques. Et vous l'avez très bien rappelé, questions scientifiques, évidentes, bien sûr. Notre travail, c'est de montrer ce qui se passe. Et d'essayer d'enrayer, bien sûr, cette érosion. C'est aussi des questions économiques, on va y revenir au cours de ce colloque, des questions sociales. Chaque fois qu'on touche à l'environnement, on touche à des aspects sociaux et éthiques aussi. Et on l'a un petit peu trop oublié. Une première question évidente, c'est pourquoi est-ce qu'on accepterait en quelques siècles de faire disparaître la moitié des espèces vivantes? Pourquoi mes petites filles n'auront pas le droit à des espèces auxquelles j'ai eu droit? En 2007, le Beiji, le dauphin du Yangtze-Kiang, disparaissait dans l'indifférence générale. Alors on me dit, oui, bon, c'est le Beiji, il vit dans le Yangtze-Kiang, c'est pas grave. Oui, n'empêche qu'il avait inventé un système d'écolocalisation absolument fabuleux. Il vivait dans un fleuve où quand vous mettez votre main dans l'eau, vous ne voyez plus vos doigts. Et donc, ses yeux ne servaient pas à grand-chose, en fait. Et il est parti. Et alors, en petit clin d'œil, hier, on me disait qu'on avait pris des photos en Irian Jaya, c'est la partie indonésienne de la Papouasie, d'un dauphin qui ressemble étrangement au Beiji. Donc, on va aller le chercher, on va essayer de le trouver. C'est peut-être pas exactement la même espèce, mais une espèce très proche qui n'est pas encore connue pour la science, qu'on va aller voir dans les forêts de l'Irian Jaya. Donc ce colloque, en fait, il vient de la jeunesse d'idées avec mon complice ici, Jean-François Toussaint, qui est médecin à l'Hôtel Dieu, qui dirige l'IRMES, et notre médecin qui s'appelle Bernard Swingedeau. On s'est rencontrés en 2010 à l'Académie des sciences, c'est pas si vieux que ça. Je faisais une conférence sur l'eau, Guylaine Marsili, je l'avais perçu tout à l'heure, je parlais du rôle de l'eau dans les systèmes biologiques, et puis la mayonnaise a pris, des coups de foudre, c'est comme ça. Et on décidait donc d'organiser en octobre 2010 le premier volet de ce colloque au Muséum d'histoire naturelle, ça tombait bien sûr durant l'année dédiée à la biodiversité. Et ce titre, je l'avais cogité depuis un certain temps, ça m'a assez plu, j'ai réussi à convaincre mes complices qu'on pouvait l'utiliser. Alors en quel sens il faut le prendre ce titre? Bien, on l'a pris dans le sens des réactions qu'on a souvent face à nous, et qui sont souvent de deux ordres. Le déni. Moi, j'ai plein de gens qui me disent « Mais oui, vous savez, l'humain, il s'en est toujours sorti, c'est pas si grave que ça. » Sauf qu'un impact environnemental en l'an 1000 sur la population n'a pas du tout les mêmes aspects, bien sûr, qu'aujourd'hui, avec 7 milliards d'humains, on l'oublie beaucoup trop. Il faut qu'on réagisse différemment. Et ce qui m'inquiète particulièrement, c'est l'accélération des systèmes. Philippe Curie nous fera une conférence cet après-midi, il nous dit « En 15 ans, on a détruit entre 50 et 90% de tous les individus, de tous les grands poissons pélagiques de la planète. Et ça ne fait que s'accélérer. Toujours un petit schéma que je raconte, que je montre, c'est qu'aujourd'hui, on prend de plus en plus petit, de moins en moins d'espèces, et donc en valeur économique, c'est de plus en plus bas, parce que ce sont les gros individus qui valaient très cher. C'est pareil au niveau du monde agricole. Je vous ai développé ceci pendant mes 8 leçons, ici, après la leçon inaugurale, dans le même amphithéâtre, entre les mois de janvier et de mars. Donc ce déni, il faut le combattre. Encore une fois, je me défends d'être un catastrophiste. Récemment, avec Hervé Letreux, même c'est un mot que j'utilise pas beaucoup, je ne sais pas si c'est mon rôle. Par contre, c'est clair qu'il faut expliquer en permanence, sans désespérer. Je suis extrêmement conscient, c'est pour ça que je réagis un petit peu au propos de Serge Haro, que j'ai beaucoup aimé, comment enseigner à des jeunes, en particulier, je suis professeur des universités, ils ont 23 ans, les miens à l'université. Il y a 4 ans, je faisais une conférence, je leur disais, voilà, le mot biodiversité à votre âge, il avait 23 ans à l'époque, ce mot biodiversité. Donc c'est donner de l'espoir, c'est se retrousser les manches, en fait. Et les scientifiques ont un rôle particulièrement aigu, pointu à jouer, avec le monde politique. Les scientifiques ne sont pas là pour prendre des décisions, ils sont là pour donner des informations les plus justes possibles, les plus fiables possibles dans le temps, pour aider justement à prendre ces décisions. Tout à l'heure, vous faisiez référence à ces conférences internationales. J'y suis allé, j'étais à Rio aussi, déçu évidemment pour un scientifique, parce que j'ai pu m'exprimer à Rio 2012, j'ai pu dire ce que je voulais, comme je l'ai fait ici avec vous durant ces leçons, de janvier à mars, mais je n'ai pas beaucoup été écouté ni entendu. Ça veut dire qu'aujourd'hui, et vous l'avez bien dit, comment est-ce qu'on bascule d'un système où on ne peut plus dire aujourd'hui « on ne savait pas ». Ça, c'est terminé, qu'on ne dise pas ça. Nous savons ce que nous faisons, nous connaissons nos impacts, développons une culture de l'impact. C'est très important. J'étais hier avec la Caisse des dépôts et conciliations, je leur disais, voilà, développez une culture de l'impact chaque fois que vous avez une œuvre à mettre en place, que vous construisez quelque chose. À quoi cela va-t-il amener? Qu'est-ce qui va se passer dans le futur? Et ça, le rôle du scientifique, c'est d'accompagner, bien sûr, ces questions particulières. Alors, avec le monde politique, bien sûr, c'est très important. Je suis un farouche convaincu de ces relations entre la science fondamentale, j'y tiens beaucoup, ici au collège, on y tient beaucoup, et le continuum vers les sciences finalisées, bien entendu, et les sciences de l'ingénieur. L'ingénieur, il va traduire la connaissance scientifique de base, en physique, en chimie, en mathématiques, ou en biologie, en écologie, et pourquoi pas en sciences humaines et sociales aussi, en données technologiques qui, après, par son développement, va à nouveau reféconder nos capacités à aller plus loin en matière de sciences fondamentales, parce qu'on développe de nouveaux outils qu'on n'avait pas auparavant. On n'a jamais eu autant de connaissances qu'aujourd'hui. On n'a jamais eu autant de moyens technologiques qu'aujourd'hui. On n'a jamais eu autant de moyens de communication qu'aujourd'hui. Là, je vous parle ici, dans l'amphithéâtre Marguerite de Navarre, ma conférence peut être suivie à Vladivostok ou en Patagonie, où vous voulez. C'est extraordinaire. Et je me rappelle Ismaël Sirageldine, qui est venu ici au Collège de France il y a quelques années, qui était le directeur de la Grande Bibliothèque d'Alexandrie. Il disait, en fait, j'ai fait un calcul, il n'y a jamais eu autant de chercheurs aujourd'hui que la somme de tous les chercheurs qui ont existé depuis qu'on fait de la recherche sur cette planète. Il disait, et pourtant, le fossé entre le nord et le sud ne fait que se creuser. Donc comment cette connaissance scientifique, on va l'utiliser? Donc sciences fondamentales, sciences de l'ingénieur et l'entreprise privée. Hein, on discutait l'autre jour. Bien sûr, c'est elle qui crée les emplois. C'est elle qui va pouvoir permettre de technologiquement lancer des processus, des matériaux nouveaux. Je parlerai un petit peu cet après-midi de bio-inspiration. Vous verrez, on en parle beaucoup ici au collège. J'ai beaucoup de collègues qui sont très intéressés par ces questions particulières et de sciences participatives aussi, où les citoyens sont en communauté avec les chercheurs pour avancer sur des protocoles, bien sûr, qu'on s'est fixés en commun. Donc le déni, le combattre effectivement en permanence pour montrer qu'on n'est pas là pour alarmer. Si je suis un donneur d'alerte ou un donneur d'alarme, ça je vais bien l'entendre effectivement, hein, en amenant les gens à se poser des questions qu'ils ne se sont pas encore posées. Et c'est à eux d'essayer de résoudre dans leur tête aussi ces questions-là, avec la communauté bien sûr. Et le second, j'ai deux ennemis en fait, je dis c'est l'arrogance, ça c'est mon premier ennemi, souvent chez les mâles d'Homo sapiens d'ailleurs, plus que chez les femmes. Et puis c'est la cupidité. Arrêtons de systématiquement créer de la richesse à très court terme en détruisant les écosystèmes, en les surexploitant. Ça c'est pas possible, une croissance infinie dans un monde fini, c'est pas possible. Et l'autre aspect, c'est effectivement des gens qui vont se mettre dans le crâne de pouvoir changer les systèmes en trichant. J'ai écouté l'autre jour, c'était fabuleux, ce coureur cycliste, moi qui aime bien faire du vélo, Armstrong, alors je l'ai vu gagner cette Tour de France, il disait, on ne peut pas gagner le Tour de France sans se doper. Diantre, si personne ne prend des produits dopants, il y aurait bien quelqu'un qui va gagner le Tour de France. Donc c'est tout ceci qu'il faut reprendre effectivement bout à bout pour qu'ensemble, collectivement, et moi j'ai beaucoup aimé bien sûr la communion que j'ai pu avoir ici grâce à vous durant cette leçon inaugurale et ces leçons au collège. Donc après ce colloque numéro 1, où on avait fait un petit peu un état de la planète, on avait aussi un joli casting, un peu comme aujourd'hui aussi et demain, on voulait avec Jean-François et Bernard passer à une seconde étape, et pour répondre à ce que nous disait tout à l'heure le professeur Haroche, essayer de donner des pistes et des solutions. Alors déjà, dans notre tête, on se dit, il y en aura un troisième pour aller encore plus loin, mais on va essayer d'avancer un petit peu. On a attendu 4 ans parce qu'on n'avait pas les éléments pour pouvoir vous proposer des pistes encore en 2012. Donc cette réflexion avec tous ces gens qui ont bien voulu accepter, venir avec nous, réfléchir avec vous durant cette journée, c'est ce but. L'homme peut-il s'adapter à lui-même dans une réflexion sur les conséquences de ses actes. Et en fait, le vrai danger qui nous guette, c'est pas... Bon, évidemment, si une météorite tombait, je crois que ce serait effectivement assez catastrophique. On a des tsunamis, des tremblements de terre, plein de choses. N'empêche que si l'humain change... Et j'ai la chance, dans mes pérégrinations diverses, de rencontrer beaucoup de monde, sans aucune hiérarchie, depuis le petit pêcheur ou l'agriculteur jusqu'au ministre, au chef d'État. Tout le monde me dit oui, on reconnaît que ça ne va pas très bien. We have to change, on doit changer. Mais comment change-t-on ? La question est là. Comment collectivement mettons en place les solutions pour changer ? Et je crois que c'est là que le scientifique a un rôle à jouer, avec son humilité à lui, bien sûr, hein, avec sa connaissance, sa capacité à établir un état de l'art sur un sujet et sur un domaine, de conseiller, d'être écouté plus dans les systèmes, là, les questions qui nous sont posées aujourd'hui. Et les associations sont très importantes aussi, le monde, ce qu'on appelle la société civile au sens très large, bien entendu. Ça concerne absolument tout le monde, et tous ensemble, hein, battons-nous pour mettre en place des conditions, justement, d'un monde, alors, qui, je dirais, le moins insoutenable, avec pas trop de mal-être. La question, elle est là aujourd'hui, effectivement, c'est que vers quoi va-t-on ? Le climat, hein, on parle aujourd'hui des questions climatiques, les questions de biodiversité, les questions d'énergie, les questions de l'eau aussi, hein, qui sont très liées, sont fondamentales. Et juste pour terminer, au niveau arrogance de l'humain, je vous rappelle quand même qu'un corps humain, un bébé humain à la naissance, c'est 3/4 d'eau. Un cerveau humain, là, on communique, c'est 80% d'eau. Hein, je pense que... Et puis je raconte souvent que quand la vie sort des océans, il y a 450 millions d'années, elle passe par ce littoral, et bien votre sang, c'est le reflet de la salinité de l'eau du littoral. Ça, je pense que si ça nous amène à réfléchir un peu mieux, à être beaucoup, beaucoup plus humble, à réfléchir qu'on est dans une communauté générale, avec tous ces êtres vivants, 2 millions connus aujourd'hui, peut-être 20 millions, ça ira beaucoup mieux. Merci beaucoup. Et donc, j'ouvre ce colloque en passant la parole à Hubert Rive. Merci.